Voilà, donc bienvenue à cette deuxième séance de la journée, de notre deuxième journée de colloque, qui va commencer par l'exposé de Thierry Saint-Arnoult, qui a fait une thèse de doctorat sur Antoine Volodine, dirigée par Joël Glaise et Anne Roche. Il est aussi enseignant de littérature dans la section bilingue du lycée de Burnau, en République tchèque. Alors, il va nous parler de l'épaisseur d'une feuille de papier de cigarette, ou à cigarette plutôt, Antoine Volodine et Lutz Bassmann, signature post-exotique. Voilà, Thierry.
Merci. Bon, ça va? Si je parle comme ça, c'est bon pour...
Un peu plus fort.
Un peu plus fort. Alors, le titre de ma communication reprend une formule tirée du post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, dont on a déjà beaucoup parlé, signifiant au lecteur qu'il n'existe pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre l'auteur et les personnages qu'il met en scène. J'aimerais prendre appui sur cette formule pour interroger ce qui sépare les signatures post-exotiques Antoine Volodine et Lutz Bassmann. En effet, en 2008, deux ouvrages paraissent chez Verdier sous le nom de Lutz Bassmann. Donc, il s'agit de « Haïkus de prison » et « Avec les moines soldats ». Il s'agit, en fait, pour ceux donc qui connaissent l'œuvre, et on en a déjà parlé, de la quatrième signature post-exotique. Je ne reviens pas sur celle d'Eli Kronauer et Manuela Dreger, qui, pour l'instant, ont paru à l'École des loisirs. De plus, la sortie des deux livres est accompagnée d'une opération de promotion qui est empreinte par certains aspects à l'agitprop et qui tente d'imposer Lutz Bassmann comme un auteur réel et identifiable. Pendant quelque temps d'ailleurs, il y avait une biographie fictive de Lutz Bassmann qui était accessible sur Wikipédia. Néanmoins, l'entreprise de falsification était assez facile à décrypter. En effet, le lecteur attentif se souvient que Lutz Bassmann était le personnage principal et l'une des signatures fictives du post-exotisme en 10 leçons, leçon 11. D'autre part, dans les deux ouvrages parus sous le nom de Lutz Bassmann, la rubrique du même auteur est remplacée par une rubrique inédite intitulée « Voix du post-exotisme » qui regroupe les quatre signatures existant à cette date. Alors, pour autant, la naissance d'une quatrième signature ne laisse pas d'intriguer, car au-delà du goût volodinien pour la dissémination hétéronymique, les ouvrages de signé Lutz Bassmann, évidemment, s'inscrivent parfaitement dans l'univers post-exotique tel qu'il était dessiné par la signature d'Antoine Volodine. On peut donc s'interroger sur les motivations d'une telle signature, et pour ce faire, donc, je reviendrai rapidement sur la notion d'hétéronymie. Je présenterai les romans signés Lutz Bassmann connus à ce jour, analyserai quelques motifs et procédés essentiellement donc dans Les Aigles Pus, qui va paraître en septembre hein, de cette année, et vous avez entendu des extraits hier soir. Et donc, pour terminer, j'ébaucherai quelques hypothèses en matière de composition. Alors, premier point, de l'hétéronymie dans le post-exotisme. Tout d'abord, on peut remarquer qu'Antoine Volodine tend au fil des années à substituer la notion de voix à celle de narrateur. Ainsi, dans la leçon 7 intitulée « Vocable spécifique », donc leçon 7 hein, du post-exotisme, donc sous la signature de Lutz Bassmann, déjà, une série de termes techniques nous est proposée pour l'analyse des romans post-exotiques. Donc, outre la notion de surnarrateur, de voix muette, de contre-voix et de voix morte, on peut y découvrir celle d'hétéronyme anonyme. Alors évidemment, une notion qui paraît au premier abord paradoxale. Alors, Antoine Volodine semble particulièrement tenir à cette qualification. D'une part, alors, ce sont des hypothèses, mais elle lui permet de mettre à distance certains critiques qui seraient tentés d'établir une filiation entre l'hétéronymie post-exotique et l'hétéronymie telle qu'elle fut pratiquée par Fernando Pessoa. Donc, et d'autre part, pour Antoine Volodine, un hétéronyme ne peut jamais être qu'anonyme. On en a déjà parlé aussi. Tout texte est le produit d'une communauté carcérale de voix multiples qu'il n'est ni souhaitable ni pertinent de rattacher à une signature identifiable, douée d'une personnalité propre, d'un onirisme propre. Aussi, le projet post-exotique suppose l'anonymat, lequel est renforcé par le montage des voix dont on a déjà parlé, les procédés de brouillage énonciatif qui sont décelables tout au long du texte. Le projet post-exotique entre ainsi en contradiction avec les logiques éditoriales qui placent l'auteur au cœur de leur dispositif de promotion commerciale. La mort de l'auteur, telle qu'elle fut imaginée par Michel Foucault, n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Il a fallu plusieurs années à Antoine Volodine pour faire admettre de nouvelles signatures, mais l'anonymat demeure une subversion incompatible avec les modalités éditoriales, du moins telles qu'elles existent. Mais, Antoine Volodine doit donc apposer une signature sur ses ouvrages, Lutz Bassmann ou une autre. Donc deuxième point, Lutz Bassmann, une nouvelle signature dans le paysage post-exotique. À ce jour, on compte deux ouvrages publiés chez Verdier sous la signature de Lutz Bassmann, donc « Haïkus de prison » et « Avec les moines soldats ». Mais j'évoquerai aussi, et essentiellement en fait, le troisième ouvrage, et c'est une occasion de le découvrir, donc « Les aigles pus » qui va paraître en septembre 2010, également donc chez Verdier. Je laisserai de côté les haïkus de prison en raison de la particularité de leur forme qui se prête assez mal à la comparaison aussi avec d'autres ouvrages. Donc, pour présenter d'abord avec les moines soldats, c'est un vaste recueil d'entrevoutes divisé en 7 parties, donc comme il se doit, hein, évidemment. La partie centrale est composée d'un long texte intitulé « Un univers prolétarien de secours » qui plonge le lecteur, après une traversée du Bardo, dans un univers où le parti, donc qui s'appelle l'Orbise dans le contexte, a mené à bien la révolution, mais des divergences ont éclaté entre factions à l'intérieur même du parti. Donc, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, les minoritaires, qui portent le nom de Kovarskistes, sont pourchassés, exterminés par les majoritaires. Le lecteur peut ainsi identifier nombre d'éléments directement inspirés de la Russie des années 30. Alors, procès stalinien, liquidation des factions minoritaires trotskistes et apparentées, processus contre-révolutionnaire au sein de la Révolution. On retrouve d'ailleurs les protagonistes principaux, Monge, Fuchs et Yasmina Fuchs, dans la dernière partie du roman intitulée « 20 ans après », qui avait déjà été publiée en revue. Dans ce texte, Monge tente de s'y opposer au déclin inéluctable de ses parents d'adoption, Teddy et Myriam. Si je reviens donc sur la première partie, qui est intitulée « Un exorcisme en bord de mer », la deuxième et la sixième, qui portent le même titre, « Crise au Tongfong Hotel », ils mettent en scène des personnages solitaires, Schwan dans la première partie, Braun dans la deuxième et la sixième, qui sont membres du parti et qui sont chargés d'une mission dont ils ne comprennent ni les tenants ni les aboutissants dans des contrées aussi étrangères qu'hostiles. On peut penser ici aux missions de Poufki dans Bardo, Ornod Bardo. Les troisième et cinquième textes sont intitulés « La plongée et l'oubli » et on peut considérer que ce sont des murmuras, ce sont de courts textes, très denses, construits comme des litanies, scandés de répétition, qui nous plongent dans l'atmosphère du quartier de haute sécurité. L'oubli évoque la mémoire de Maria Schwan, une résidente du quartier. La plongée évoque le processus de création des images dans le post-exotisme. Donc l'ensemble forme un roman dans la veine du post-exotisme, tel qu'on le connaît depuis 1985 sous la signature d'Antoine Volodine. À la lecture, il semble que le livre aurait pu facilement paraître sous cette signature originale. Mais évidemment, on pourra également en discuter par la suite. Quant au deuxième roman, donc lui que tout le monde n'a pas lu, enfin a priori, il s'agit d'un recueil donc de 25 narras, comme l'insinue un des personnages du texte. Donc ce sont des souvenirs, des rêves, des images. Alors, je cite, « Pour distraire les morts que j'ai aimés, pour distraire mes proches, mes camarades et mes amis, ceux d'ici, incarcérés dans les ruines ou répandus autour de nous sous forme de goudron, pour leur dire que je les aime encore et que je continuerai à les aimer, même si je n'ai plus de voix, même si mon organisme se défait, même si mon organisme rejoint le goudron indifférencié qui maintenant nappe la ville et même le monde. » Donc il s'agit d'une citation du Nara 5. Alors, l'anecdote principale du texte, il s'agit donc... le personnage principal s'appelle Gordon Coombe. Il revient dans sa ville après qu'un bombardement l'a rayé entièrement de la carte. Les siens sont morts, les amis, les proches, sa femme, Mariama Coombe, ses trois enfants, Saria Coombe, Ivo Coombe, Gourbal Coombe. Gordon Coombe marche dans les ruines, réduites à l'état de goudron, et il invente des textes en forme d'hommage à ceux qui ont péri dans les flammes. Donc il s'agit bien de la littérature post-exotique telle qu'on la connaît, la littérature qui est conçue comme un tombeau, une forme d'hommage, et on pourrait même dire, en enlevant tout le côté religieux de la chose, une prière en quelque sorte pour ceux qui sont décédés. À la lecture de la table des matières, on découvre que le recueil est construit sur une alternance de 4 séquences. La première est intitulée « Centre » et raconte donc l'histoire de Gordon Coombe, telle que je l'ai présentée. Les trois autres sont présentées comme des narras inventés par Gordon Coombe et elles tiennent leur nom de trois formules incantatoires à la mémoire de X, ici à brûler Y et pour faire rire Z. Le dernier narra se proposant d'être tout particulièrement divertissant puisqu'il est intitulé « Pour faire rire tout le monde ». Donc, cette rapide présentation permet de saisir la proximité des deux écrivains post-exotiques. Les motifs et les obsessions propres au quartier de haute sécurité sont visibles au premier coup d'œil. Et j'aimerais maintenant examiner quelques-uns de ces motifs, à commencer par un développement un peu plus vaste sur la notion de catastrophe. Donc, troisième point. Ça va ? Donc, troisième point, la passion des catastrophes. Donc, le roman de Lutz Bassmann, Les aigles puent, comme tous les ouvrages post-exotiques, s'ouvre sur un décor de catastrophe. Alors, ici, il s'agit d'une ville rayée, un paysage de cendres. Donc, je peux citer un passage, j'en ai plusieurs. Au plus fort du raid aérien, la ville avait flambé pendant une demi-minute, et ce temps avait suffi pour qu'elle se dissolve. Il y avait eu une préparation classique, avec des bombes de forte puissance, mais ensuite, quelque chose s'était répandu en quelques secondes, presque sans bruit, et aussitôt la ville avait paru fondre dans sa totalité et à très grande vitesse. Alors, on remarque toujours des effets humoristiques, si on peut dire, une préparation classique, hein, vous voyez, un bombardement qui se prépare de manière classique. Dans un autre passage, on lit vers la fin du texte, « Notre ville avait été bombardée », mais c'est un leitmotiv hein, tout au long du texte, « Notre ville avait été bombardée et instantanément vitrifiée par des projectiles expérimentaux. » Alors, la sensation de catastrophe définitive est sans retour et renforcée par la récurrence de certains énoncés que l'on retrouve dans d'autres ouvrages. Hein. Par exemple, « Il ressemblait à une mouette mazoutée », il s'agit d'un des personnages, comme on en voyait encore au temps où il y avait une circulation maritime régulière, des marées noires régulières et des mouettes. Donc, évidemment, la formule, c'est « comme on en voyait encore au temps qui revient régulièrement. Le réseau sémantique du texte est particulièrement marqué au sceau de la catastrophe. On notera une triple conjonction, donc du désastre, du calme et des ruines. Alors, j'ai fait un relevé dans le premier narra, je vais vous en passer une partie parce que ça me fait une demi-page, mais sur 10 pages, on a tout un vocabulaire, une sémantique qui est assez impressionnante, donc un chaos privé de tout signe de vie, boulevard désert, des montagnes de débris, ce qui était devenu un immense cimetière, sous les tonnes de gravats, un paysage dévasté, décombres, bon, toute une, en fait, toujours le... une sémantique en fait du morceau, de la particule, des objets qui tombent en miettes, et avec en particulier, donc, qui revient également, la description en fait d'un paysage qui est imprégné de goudron, donc glacis goudronneux, glu, tout était enrobé d'une matière sirupeuse et tiède, très noire, qui le plus souvent filait comme du caramel. Jolie métaphore culinaire. Un miel ténébreux, par exemple. On trouve également des expressions comme une purée bitumineuse, chaude comme une déjection intestinale, une pâte répugnante, enfin, voilà. Et dans le dernier narra, l'avant-dernier, donc la fin de l'histoire de Gordon Coombe, hein, puisque le dernier narra est fait pour faire rire tout le monde, il sentait contre son visage des débris tièdes, contre ses mains ou sous lui, des morceaux d'on ne sait quoi, indéfinissables, souillés de matière collante, des surfaces vaguement meubles, vaguement souples, des charbons, tout était tiède. Donc voici un petit peu l'atmosphère, on a l'impression que tout semble se diviser à l'infini, les cadavres et les morceaux de cadavres, hein, même les cadavres se découpent en morceaux. Et puis, impression générale, on avait l'impression de marcher à l'intérieur d'un four longtemps après son extinction. Donc, encore une fois, cette image du four hein, qui revient, il s'agissait, je cite également, du monde des morts. Et tout était devenu anonyme. Donc, on retrouve cette notion d'anonymat dont j'ai parlé avant. C'est non seulement le narrateur qui est anonyme, l'auteur du texte, hein, dont le nom est apposé sur la couverture, mais aussi le paysage dans lequel les personnages se déplacent. Alors, ce qui m'amène à un article donc, de d'Yves Citon, qui est intitulé « La passion des catastrophes » dans la Revue internationale des livres et des idées. Yves Citon évoque la mode des catastrophes à l'aube du troisième millénaire. Alors, quelques rappels, mais vous les connaissez. 11 septembre 2001, tsunami en 2004, cyclone Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans, polémique autour du réchauffement climatique, inondations, tremblements de terre, mazoutage, épidémie, mort invisible des abeilles. Il se réfère à un certain nombre d'ouvrages récents, je pense que j'ai peut-être pas besoin d'entrer dans le détail, mais enfin avec aussi bien Paul Virilio, mais peut-être il y a un certain nombre de textes qui reviennent sur l'histoire du mot catastrophe. Alors un texte par exemple, l'invention de la catastrophe au XVIIIe siècle, du châtiment divin au désastre naturel, pardon. Un autre texte s'appelle « Biopolitique des catastrophes ». Et tous ces textes, hein, sont entre 2002 et 2008. Hein. C'est dire qu'il y a 7 ou 8 ouvrages, hein, qui sont parus sur la notion de catastrophe en très peu de temps. À cela, je pourrais ajouter un autre article publié dans la revue, dans la RILI, hein, ça ira plus vite, qui est intitulé « La fin du monde est-elle » intitulé sobrement « La fin du monde est-elle vraiment pour demain ?» et qui parle d'un texte qui a eu beaucoup de succès, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, par rapport à la fin de la civilisation de l'île de Pâques. Donc ce livre, hein, cet essai, était intitulé « Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie ». Donc vous voyez qu'on est dans une actualité quand même, une actualité de la catastrophe et de la notion de catastrophe. Alors, ces différents ouvrages permettent de retracer l'histoire de la notion de catastrophe qui apparaît dans son acception actuelle au XVIIIe siècle dans le cadre du processus de laïcisation de la compréhension de l'univers et de ses modes de fonctionnement. Il est à noter que le terme de catastrophe est emprunté au vocabulaire théâtral. Donc il apparaît au XVIIIe et c'est un mot qui vient du théâtre où il désignait jusqu'à cette époque le retournement final de l'intrigue. Sa révolution ou sa chute, on disait également. Ce sont des auteurs comme Montesquieu et d'autres qui, dans la première moitié du XVIIIe siècle, commencent, donc je me réfère à chaque fois à l'article d'Yves Citon, hein, qui l'emploie désormais pour désigner une calamité de grande ampleur. Le terme sera repris par les gazettes à l'occasion du tremblement de terre de Lisbonne, le 1er novembre 1755. Dans son ouvrage, l'historien François Walter, donc un autre des livres que j'ai pas cité, mais j'ai les références, piste l'évolution du terme jusqu'au début du XXIe siècle. On en retiendra, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le sentiment de vulnérabilité ressenti par les capacités d'autodestruction de l'humanité. Et plus encore, ce qu'il appelle le désir de catastrophe de l'époque postmoderne. Donc, alors, j'aimerais moi mettre l'accent sur deux éléments. Premier point, le catastrophisme constitue une pensée qui émerge au XVIIIe lorsque, dans le domaine des sciences de la Terre, émergent des théories qui favorisent les bouleversements brutaux et soudains en opposition au gradualisme qui défend des modèles d'évolution continue. En ce sens, on voit que le post-exotisme hérite de cette conception ou perception catastrophiste, hein, de l'histoire. Révolution et catastrophe s'inscrivent dans cette vision faite de bouleversements sociaux et politiques, d'équilibre en perpétuelle instabilité et de coups de théâtre spectaculaires, ce qui nous ramène également, ce qui renoue avec l'origine dramatique du terme. Ainsi, progressivement, les écrivains du siècle des Lumières s'approprient le terme de catastrophe pour le transformer en un objet esthétique. Et à cette époque, à côté de la catégorie plus traditionnelle du beau, émerge la catégorie du sublime, dont on pourrait penser qu'elle permettrait d'éclairer, au moins partiellement, l'étrangeté aussi esthétique du post-exotisme. Alors, néanmoins, le post-exotisme emprunte au catastrophisme son origine dramatique, donc le coup de théâtre initial, la catastrophe ou le désastre, qui a toujours déjà eu lieu, dès l'incipit, s'explique autant par la vision pessimiste de l'auteur que par les potentialités dramatiques que recèle un univers fictionnel lézardé par la catastrophe. On pourrait parler d'une forme paradoxale de dénouement originel, forme proprement post-exotique, qui participe de la captation du lecteur. Le suspense ne s'en trouve pas miné, il impose au contraire au lecteur sa dramaturgie catastrophiste entre fatalité et grotesque. Seconde remarque, étudiant l'évolution du terme de catastrophe de la Renaissance à nos jours, l'historien François Walter s'est efforcé d'en dégager la continuité par-delà les césures historiques traditionnelles. Et il explique dans son livre, depuis le XVIe siècle, les hommes incriminent une faute collective dont ils doivent assumer la culpabilité. Alors, je cite, « Au lieu d'incriminer l'homme singulier sur le plan moral par le péché, la vision sociétale contemporaine met en accusation la faute collective inscrite dans le mode de vie. C'est pourquoi les catastrophes sont déplacées sur un registre qui dénonce l'irresponsabilité des activités humaines. » Or, s'il semble que dans le post-exotisme, la catastrophe puisse être imputée à l'ensemble de l'humanité, dont les agissements l'ont conduite au désastre, en ce sens, ceux qui portent l'idéal de la Révolution ont pleinement participé au désastre, conféré le nom des singes, Nuit blanche en Valkyrie ou Vue sur l'ossuaire. Mais d'autre part, les personnages ou les narrateurs font régulièrement référence aux responsables du malheur. On en prendra deux exemples chez Lutz Bassmann. Donc, dans un univers prolétarien de secours, les Kowarski sont persécutés par la fraction dominante du parti. Voilà. Second exemple, dans Les Aigles Pus, la ville où habitait Gordon Coombe subit les bombardements, qui sont qualifiés de merveilles de la technologie contemporaine, d'un ennemi qui n'est jamais décrit ou identifié avec précision. Donc, l'offensive prit vite un caractère routinier. Elle n'avait pas dû être planifiée pour conquérir un territoire qui, de toute façon, était dévasté à jamais, mais plutôt pour rappeler à la guezaille survivante que même dans une ville réduite à un tas de charbon, une existence paisible ne serait pas tolérée et qu'une punition permanente serait infligée aux misérables, qui, non contents de vouloir coloniser la terre des riches, l'avaient à jamais cochonnée par leur présence et par leur miasme. Donc on notera que les motivations de l'ennemi demeurent absolument floues dans ce passage. Sans visage, il est attribué à l'ennemi une simple volonté de destruction et de punition des pauvres. Et on soulignera l'emploi de l'ironie, l'euphémisation de la violence et des bombardements, le caractère routinier de ces bombardements. D'autre part, cela repose également sur donc une logique antagonique de classe. Il s'agit bien des riches, donc, mais on en a parlé, enfin qui s'acharnent sur les pauvres. À ce moment-là. Un des symboles dans ce texte, Les Aigles Pus, c'est un personnage qui, non loin de Gordon Coombe, qui est en train de fouiller les ruines, escalade une façade d'immeuble qui est réduite à une simple façade. Donc en fait, il monte chacun des étages, il s'arrête à chaque fois sur le rebord, il examine et à chaque fois il essaie de remonter au-dessus. Donc on a une version ici tout à fait post-exotique, enfin symbole de la catastrophe et de l'absurdité. Là, le terme d'absurdité, à mon avis, conviendrait. Et pour parler comme Bachelard, on pourrait parler d'un complexe de Sisyphe ici dans ce contexte. Alors, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps.
Oui, bien sûr, oui.
Une vingtaine de
minutes.
Trois heures.
Il est trois heures.
Ah bon.
Rassurez-vous.
D'accord. Alors, non, mais c'est pour éviter de vous barber aussi. Donc, quatrième point, donc, j'ai essayé de revenir aussi sur d'autres motifs, essayer de repérer d'autres motifs et procédés post-exotiques. Alors, le goût du paradoxe, donc là, ça va être beaucoup plus rapide. Le goût du paradoxe, Gordon Coombe, quand il rentre dans sa ville calcinée, a échappé à la mort parce qu'il était en mission à l'extérieur, comme beaucoup de personnages. Il était allé tuer quelqu'un, c'est pour cette raison qu'il avait survécu. Bon. Voilà, donc ça c'est tout début, on est vraiment dans les premières lignes du texte. Ensuite, Gordon Coombe a une quête, et véritablement dans une quête, comme beaucoup de personnages, une quête angoissée. Il refuse de croire à la mort de ses proches. Donc deuxième point, alors je cite, « Il voulait retrouver Mariama Coombe et les enfants de Mariama Coombe. Il préférait nier l'évidence, il se refusait à formuler la moindre conclusion funèbre et il se disait que malgré tout, il pourrait les extraire vivants des décombres, Mariama Coombe, Saria Coombe, Ivo Coombe et Gourbal Coombe. » Donc on retrouve cette forme d'énumération des morts, cette littérature en forme de tombeau qui est dès l'origine du texte. Troisième point, la temporalité. Là aussi, on a des formules évidemment qui constituent une temporalité qu'on peut qualifier de paradoxale. Je cite, « L'écoulement du temps autour de Gordon Coombe allait obéir dorénavant à un rythme de sanglots et d'abattements qui n'avait aucun rapport avec la rotation terrestre ou autre foutaise pour chronomane. » Un autre passage, le personnage se demande que si ça date des temps historiques ou de plus tard. Sont également évoquées les vieilles légendes écologistes. On en parlait à propos de la catastrophe également. Quatrième point, donc, qu'on retrouve chez Lutz Bassmann, l'omniprésence du parti. Donc Gordon Kuhn pensait à eux et au parti dont nous étions à l'époque les derniers représentants. Formule assez classique également, donc, dans les livres signés Antoine Volodine. Néanmoins, il y a une nuance ici, il s'agit d'un groupe qui est intitulé le groupe Avenir Radieux, qui constitue donc une nouvelle incarnation du paradigme du parti, hein, et il est qualifié ainsi de pseudopode clandestin du parti, voilà, qui travaille donc en sous-main. Ensuite, les personnages sont évidemment tous des Untermenschen. Alors, je vous épargne un certain nombre de formules, mais loqueteux, clandestin, gueusaille, une variété monstrueuse de sous-hommes, c'est des déserteurs, éclopés, brûlés, desperados, les derniers Iburs et les derniers Russes. Je suis désolé. Donc, en ce qui concerne les Untermenschen, ils ressentent surtout une absence de reconnaissance, et même plus que ça, un sentiment d'exclusion radicale. En permanence, ils se demandent si on va leur délivrer des certificats de conformité génétique. C'est l'angoisse principale, hein, des personnages du texte. Autre problème, par exemple, le fils de Golka Romanenko, je cite, était né sans elle. Deuxième citation, un peu plus loin, on était à un moment de l'histoire humaine où sur la question de la conformité raciale, aucune blouse blanche ne se laissait fléchir. En cas de non-appartenance flagrante à la race dominante, l'euthanasie était automatique et immédiate. Donc on retrouve, hein, des obsessions qu'on peut avoir, hein, cette absence d'aile sur un personnage. Je pense à Des Enfers Fabuleux, par exemple, hein, au niveau de cette jeune fille qui naît avec les yeux ouverts, hein, ce qui est absolument interdit dans cette peuplade d'oiseaux. Régulièrement, on parle de statut légal, de service de salubrité publique et de demande d'enquête biologique et de nettoyage. Donc, toutes ces formes euphémisent en quelque sorte une ambiance générale de génocide. Hein. Il s'agit de liquider ces formes monstrueuses d'Untermenschen, que ce soit par les bombardements ou autres. En face s'opposent les homididés officiels, aussi qualifiés très fréquemment d'ennemis, hein, tout simplement. Par exemple, le personnage central s'appelle Benny Magadan. Le personnage évoque la réalité. Alors, c'est un personnage qui vit enfermé dans une pièce, hein, et qui a très peur de l'intrusion, de la moindre intrusion de l'extérieur, et donc qui s'efforce de ne pas respirer de façon à ne pas se faire repérer. Et il parle de la réalité dangereuse et horrible que fabriquent les autres. Donc les autres, hein, c'est la détermination n'est pas plus importante. Et il se répète des slogans où il se dit « ta prison est hermétique ». Des slogans en quelque sorte protecteurs, ne favorisent aucune intrusion. Voilà pour les personnages. Un sixième point, donc, je pense, oui, c'est ça. Critique des temps présents. Évidemment, par exemple, donc Benny Magadan, 20 ans plus tôt, avait été envoyé en rééducation. Et on avait testé sur lui de nouvelles méthodes, principalement des séjours en chambre chimique et des impulsions électriques. Ces techniques, bien que correspondant à de merveilleuses trouvailles des savants, n'avaient pas donné les résultats escomptés. Donc on voit toute l'ironie, hein, par rapport à la technologie. Hein, dans les rues vrombissaient, il s'agit des avions qui bombardent la ville, dans les rues vrombissaient des merveilles de la technologie contemporaine. Voilà. Et avec une ironie qu'on retrouve également au niveau des bombardements, donc les avions utilisent des ondes. Donc les ondes étudiées pour déceler les mouvements humains ou la chaleur animale nous confondaient avec d'autres organismes errants ou avec les débris encore brûlants, des dommages collatéraux. Avec une collecte d'informations aussi approximative, les tirs ennemis manquaient de précision. Voilà. Un nouveau point, je vais parler également donc de l'ambivalence. Donc hier, vous avez entendu sans doute parler d'un personnage qui s'appelle le Gollywog. Est-ce que vous vous souvenez d'hier? Donc, je cite le passage. C'était un Gollywog, un pantin originaire des temps historiques, censé représenter un nègre de music hall avec une face couleur corbeau et une chevelure grotesquement touffue. Donc il s'agit effectivement donc de poupées qui ont été utilisées à la fin du 19, qui ont été fabriquées à la fin du 19e siècle et qui ont traversé, je pense, le 20e. Je crois qu'on peut encore en trouver aujourd'hui. Donc des pantins racistes qui représentaient, enfin qui étaient utilisés par les blancs comme symbolisant le ségrégationnisme qui pouvait exister à l'époque. Mais le paradoxe ici, c'est que Gordon Coombe, qui est tout seul dans les ruines, discute avec ce pantin, et comme il est ventriloque, donc il fait parler la poupée, et que c'est le seul personnage avec un troisième, un rouge-gorge mort, et calciné, donc c'est les seuls personnages avec qui il réussit finalement à discuter, comme si la charge raciste au départ du Gollywog, qui est une représentation raciste des Noirs, au contraire, ici, était retournée pour devenir le dernier compagnon, le dernier compagnon de désastre de Gordon Coombe. Donc on retrouve ce phénomène qu'on connaît donc de la non-contradiction des contraires, qui est très présente dans le post-exotisme, signé Antoine Volodine. Là, je parle évidemment de Lutz Bassmann. On peut mettre en rapport également la présence de cette poupée raciste avec la culture des minstrel shows, des spectacles de blackface tels qu'ils existaient aux États-Unis, où des blancs se grimaient en noir pour caricaturer les nègres et dénoncer leurs travers. Et dans un ouvrage récent de William T. Lamont Jr., excusez la prononciation, il tend à réévaluer le sens de ces spectacles. Pour lui, en fait, les blancs qui se grimaient étaient en fait eux aussi des prolétaires blancs qui en fait représentaient plus une critique de la société de classe telle qu'elle existait à l'époque et s'associaient aux noirs en les caricaturant et en fait étaient plutôt en train de dénoncer la société de classe dans laquelle ils vivaient. Donc, je peux citer un passage simplement. Ces spectacles seraient un pastiche de la société de classe et de race, une rébellion commune contre les puissants. Alors, c'est assez amusant, évidemment, de faire le rapprochement avec ce Gollywog ici qui correspond finalement à ce type de retournement étrange. Un autre point, donc, le rapport à l'animalité. Alors, là, il y a une revisitation dans un des narras, je l'ai surnommé l'arche de Noé Bagalgul. Donc il y a une revisitation de la Bible, ici il s'agit évidemment de l'arche de Noé, et en fait Noé Bagalgul en fait propose est un passeur qui fait passer des gens, donc comme on le voit dans des anges mineurs, qui fait passer des gens sur une rivière, et quand les personnes qui veulent passer remontent sur son bateau, il les regarde attentivement et il leur désigne un animal une forme animale qu'ils doivent imiter pendant l'ensemble de la traversée. Et s'ils imitent mal, il les fait passer par-dessus bord pendant la traversée. Et quand le personnage central arrive, il est observé et on lui désigne un statut de mouche à viande, particulièrement agréable, évidemment. Et le personnage hésite, évidemment, il se demande s'il va être capable de réussir un mime suffisamment expressif de la mouche à viande. Et à partir de là, il décide finalement de s'enfuir plutôt que de traverser le fleuve. « Renonçant à puiser en moi l'énergie nécessaire pour imiter une mouche à viande, je m'envolais d'un bond hors de l'embarcation, échappais par miracle au croc de l'escrimeur et m'enfuis. » Et alors là, c'est là que le lecteur « je m'envolais d'un bond », évidemment, on se commence à se poser des questions sur l'identité du personnage en question. Enfin, ça distille un peu de doute, quoi. D'autre part, ces narras n'aboutissent pas, comme dit le rouge-gorge quand il discute avec Gordon Coombe, ce sont des inaboutissements bizarres. Ces histoires n'aboutissent pas, fit remarquer le rouge-gorge. On retrouve donc cet effet de refuser de choisir pour la fin ce qu'on retrouve sous la forme du faciage narratif qui se trouve à la fin de Songe de Mevlido, par exemple. D'autre part, le comique post-exotique, on ne peut pas y échapper. Je peux simplement évoquer l'histoire de Chapur Mahadurian. C'est un saint dont certains ont mis en question sa sainteté. Donc, un petit peu ulcéré par la situation, il a décidé de prouver à ses fidèles et à ceux qui doutent de lui, décidé de prouver son aptitude à l'immortalité. Donc, il se fait enterrer pour une période correspondant à peu près à la gestation d'un hominidé normal, voire d'un gorille. Et finalement, au bout d'un certain temps, donc son disciple le fait retirer. Alors, voici, au moment de l'exhumation, ce que déclare le disciple qui se plaint toujours qu'on l'accuse d'avoir fait assassiner son maître. nous en avons retiré des restes qui avaient beaucoup plus à voir avec la déchetterie qu'avec la sainteté. Donc voilà, donc une forme de comique, hein, d'humour du désastre qui est tout à fait présent donc chez Antoine Volodine aussi. Donc ce qui m'amène à une conclusion partielle, mais ça ira vite après. Donc c'est l'unité de sang des romances post-exotiques, donc qu'il soit signé Lutz Bassmann ou qu'il soit signé Antoine Volodine. Alors je cite dans le post-exotisme, en dépit de la grande diversité des sujets abordés, et même si les personnages et les décors changent considérablement selon les auteurs, on ne peut pas lire un romance sans ressentir l'impression qu'il entre en parenté avec d'autres romances qui l'ont précédé, ou suivi. Cette impression reste parfois assez floue, mais elle est fondée. Des liens de sang existent entre tous les ouvrages du genre. Donc, à partir de ce point-là, vous comprenez que mon travail ne sert pas à grand-chose. Hein. Il n'y a pas donc lieu de marquer une différence essentielle entre les deux signatures post-exotiques. Néanmoins, quand même, j'ai deux petits indices, donc c'est mon cinquième point, à propos de deux indices, simplement quelques traces de linéarité intratextuelle, c'est très compliqué. Donc en amont, donc dans le Nara 18, intitulé « À la mémoire de Leonald Baltimore », donc Leonald Baltimore est ce personnage qui est chargé de l'entretien des tours et qui se bat contre les aigles au sommet des tours, si vous vous souvenez de la lecture d'hier, pour $1 de salaire. Leonald Baltimore nettoie, donc il est chargé de l'entretien de 8 tours et la plus haute d'entre elles s'appelle la tour Kowarski. Or, la tour Kowarski, on vient de voir que dans Avec les moines soldats, ce sont les Kowarskistes qui sont pourchassés par le parti majoritaire. Donc, c'est ce qui me laisse à penser cet indice, qu'il y a quelques traces qui indiquent le passage, comme Antoine Volodine semble beaucoup tenir au rythme des publications et à la dans quel ordre sont publiés les romans, on peut se demander s'il n'y a pas quelques traces qui permettent de passer comme ça, systématiquement, d'un livre à un autre, quelques indices, simplement. Qui sont là comme ça. Dans le même Nara, Leonald Baltimore est mitraillé au sommet du tour du quai Sariachuan. Donc là aussi un tout petit détail, le quai Sariachuan, mais c'est une allusion à la première partie d'Avec les moines soldats, intitulée Un exorcisme en bord de mer. Le personnage principal s'appelle Schwan, et la séance d'exorcisme ressemble plutôt au coup de folie d'un tueur en série. Il s'adresse ainsi à l'une des cibles en l'appelant Saraya Schwan. Donc on voit bien Saraya, donc avec un léger décalage, mais on est tout à fait dans ce genre de tonalité onomastique qui se présente comme j'ai parlé d'indice. Ça c'est pour l'amont, mais en aval, on sait aussi que le dernier ouvrage post-exotique doit s'intituler « Retour au goudron ». Donc, et qu'il sera signé lui-même Lutz Bassmann. Or, nous avons vu que l'anecdote centrale des aigles pus se déroule dans une ville transformée en goudron. On peut donc souhaiter, et même on souhaite, qu'il y ait encore de nombreux ouvrages post-exotiques, et on connaît la capacité de l'auteur à raconter des histoires qui se déroulent à proximité de la fin ultime, ou même après la fin. Néanmoins, on voit déjà que le goudron domine le paysage bassmannien, annonçant dangereusement retour au goudron. Donc, sixième point, de l'art de la composition. Donc, puisqu'il ne semble pas pertinent de différencier de manière très nette les deux signatures, ce qui justifie le terme contradictoire ou apparemment contradictoire d'hétéronyme anonyme tel que je l'ai présenté au début, pour donner du sens à notre projet, je voudrais me placer à un autre niveau de réflexion, ce que Guy Scarpetta, dans un recueil d'essais intitulé « L'âge d'or du roman », évoque ce qu'il appelle « l'art de la composition ». On conviendra avec lui que les grands romanciers du présent pratiquent un art de la composition, au sens musical du terme, complexe, ramifié, tramé. L'art d'Antoine Volodine en est une parfaite illustration. Il convient pourtant de se déplacer au niveau de l'œuvre dans son ensemble. Non seulement chaque roman est élaboré minutieusement, cela va sans dire, mais c'est à l'échelle de l'œuvre que cet art de la composition prend toute sa force et toute sa subtilité. Antoine Volodine renoue avec les grandes sommes romanesques des 19e et 20e siècles, tout en perfectionnant justement cet art de la composition dont je parlais, et qu'on pourrait tout à fait développer, préciser. Ainsi, puisque le post-exotisme revendique avec constance son insularité, je pense qu'on peut parler, pour compléter cette réflexion, en empruntant donc un terme qu'on a déjà vu, le terme d'archipel, et dire que les hétéronymes post-exotiques constituent en fait à l'intérieur du monde volodinien autant d'archipels Donc, ce qui correspond tout à fait à l'analyse qu'on avait pu faire au niveau des anges mineurs, hein, d'une topographie où on avait également parlé d'archipel. Mais là, j'aurais envie de le situer, chaque hétéronyme comme un archipel et entrant en communication avec l'ensemble de l'œuvre. Conclusion, pour faire rire Antoine Volodine. En conclusion, notons que le post-exotisme donc, s'inscrit fortement contre son temps et contre le capitalisme dominant. Or, la construction d'une écriture plurielle, collectivisée, anonyme, favorisant des formes d'énonciation gigogne, revendiquant l'hétéronymie anonyme, relève donc de ce refus de se soumettre aux préceptes qui dominent notre temps, qui sont des préceptes d'individualisation, d'individuation. Hein, comme l'expliquait Gilles Deleuze lors d'une conférence donnée à la FEMIS, si vous êtes pris dans le rêve d'un autre, vous êtes foutu. Alors que le triomphe capitaliste favorise l'individuation, le post-exotisme ne cesse de se ramifier, de collectiviser la parole des vaincus. Soumis aux pires humiliations, comme ce garde rouge rescapé des poubelles de l'histoire, il s'agit du dernier nara des aigles pus, donc ce garde rouge rescapé des poubelles de l'histoire, qui est contraint de défiler seul, sous les colibés et les sarcasmes de la foule, et malgré tout, bien qu'affublé d'un costume ridicule, il continue à revendiquer sa fierté en brandissant le poing et des slogans égalitaristes. Et le texte se termine sur « Et j'étais très fier ». Citation. Ainsi se clôture la marche de ce garde-rouge d'opérette, ne sachant pas si, après le spectacle, il sera renvoyé dans son ghetto ou simplement liquidé. Comme l'expliquait un brigadiste ayant participé à la guerre d'Espagne, « Nous avons perdu toutes les batailles, mais c'est nous qui avions les plus belles chansons. » Peut-être les plus beaux slogans, la plus belle littérature, c'est-à-dire celle qu'on appelle post-exotisme. Et je vous remercie.
Vous voyez que ça passe vite 3 heures dans le monde post-exotisme. Merci beaucoup Thierry.
Alors, comme l'éternité.
Oui, tout à fait. Alors, merci pour cette belle réflexion. Effectivement, dans plusieurs œuvres d'Antoine Volodine, on trouve l'extermination ou la catastrophe dès le début. C'est le cas de ce roman-ci, ce recueil de Nara, comme de plusieurs autres livres. Et contrairement à ce qui se passe, par exemple, dans les films catastrophes, qui sont très populaires à Hollywood présentement, on ne lutte pas contre la catastrophe. Il y a toujours un héros, plus ou moins individualiste, finalement, qui sauve l'humanité des catastrophes qui lui arrivent dans ces films assez à gros budget, etc. Et là, on a l'impression d'un personnage qui, finalement, va épouser presque cette espèce d'annulation du monde à travers l'anonymat. Hein. Tout est couvert d'un goudron uniforme qui anonymise le paysage comme les personnes. Et que, finalement, son seul recours, ce sera de ce que j'appellerais une sorte de prosopopée généralisée, parce qu'il fait parler le Gouliwog, il fait parler le Rouge-Gorge mort, il fait parler, un peu comme dans d'autres livres d'Antoine, je pense à Écrivain dont j'ai parlé un peu hier, où le héros de la dernière nouvelle fait parler une poupée de débris, un bout de bois. Donc toujours passer la parole, hein, selon la signification propre de la prosopopée, hein, donner à un objet inanimé des propriétés proprement humaines, dont la parole, la conscience, la pensée. Et il me semble que c'est un peu ce qui se passe avec les hétéronymes, hein, c'est-à-dire que Volodine faisant parler Manuel Adreger, Eli Kronauer, Lutz Bassmann, donc des personnages qui n'ont pas en soi la parole, et qui deviennent par ailleurs des êtres extra-diégétiques puisqu'ils signent des livres, ils signent même des communiqués de presse maintenant, etc. Donc on leur donne, d'une certaine manière, vie, hein, alors que ce sont des bouts de bois ou ce sont des gouliwogs. Et alors je me demandais s'il n'y avait pas là une figure, hein, celle de la ventriloquie finalement, hein, ou celle de la marionnette, de la poupée, du fétiche, quelque chose qui révélait un peu ce rapport au nom propre des personnages qui deviennent patronymes d'auteurs, jumeaux, ou enfin siamois, enfin, très proches finalement du nom même de Volodine. Donc un lien qu'on préfère entre prosopopée, dans ce sens, et métempsychose, réincarnation, la possibilité de se réincarner dans un autre écrivain, comme d'ailleurs, d'une certaine manière, les mondes en voie d'extinction, ou déjà plus ou moins exterminés, se réincarnent aussi en d'autres mondes, mais fictifs, hein, fictionnels, des mondes oniriques, des mondes de mémoire, des mondes de la réminiscence. Donc un processus qui emporte tout, paysage comme personnage, dans une sorte de métamorphose perpétuelle, hein, à travers la prosopopée, la métempsychose, la réincarnation au sens propre. Parce que vous avez traité un peu ces deux sujets séparément, c'est-à-dire la question de la catastrophe d'une part, puis la question de l'hétéronymie d'autre part. Mais il me semble qu'il y a un lien justement par le biais de cette poupée qu'on fait parler, de la
ventriloquie. Avec les poupées, on a toujours ce phénomène de toute façon, et pour les hétéronymes également, de collectivisation en fait de la parole, de la prise de parole collective. Donc on se situe au niveau de la publication des livres ou qu'on se situe à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est le même type de phénomène qui se reproduit. Tout se divise en soi-même, tout se multiplie, c'est ce genre de phénomène. Mais est-ce que c'est lié à la catastrophe? Alors après, ça fait partie de...
C'est-à-dire qu'il y a l'impossibilité d'avoir un nom, hein, d'avoir une identité,
un moment,
tout anonyme, hein, goudronné, hein, où même les mouettes disparaissent sous l'épaisse couche de goudron. Donc, pour redonner vie, voix et faire résonner encore ce monde qui est devenu comme ça une sorte de sans-nom, hein, d'innommable, on a besoin donc de substituts. Le goulywog, l'oiseau mort, peu importe, mais toujours quelque chose. Et l'Ouds Basman est une sorte de goulywog dans ce sens-là. Permet de donner un nom à ce qui n'a plus de nom. Dans un monde de l'extermination généralisée, où l'identité est incertaine.
Je suis d'accord. Voilà.
C'était pour lancer la discussion, oui. Frédéric Detu.
Oui.
Je pensais, là je vais peut-être essayer de parler par ventriloquie avec le nom de Lionel qui est la problématique qu'il avait posée en introduction du colloque. Moi, il m'avait semblé qu'en 2008, quand on signe Ouds Basman, pour l'auteur Volodine, c'était une forme de respiration. Comme s'il étouffait dans la seule entité d'écrivain Volodine, et que le fait de changer d'éditeur, de publier sous une autre signature, c'était une façon de se déporter, de se déplacer et de retrouver une inspiration qui puisse être déporté vers un ailleurs par rapport à ce qui était signé Volodine. Et c'est peut-être aussi par rapport à une forme de déception qu'il a pu y avoir après Songe de Mévido qui n'a pas eu la reconnaissance qu'on pouvait espérer. Au seuil, donc je parle aussi. Voilà. Donc. Je me demandais dans cette mesure-là, ou si malgré donc évidemment tous ces phénomènes que vous avez rappelés, qui sont le fait qu'il n'y ait pas une feuille de papier à cigarette entre l'un et l'autre, malgré tout, je reste à m'interroger sur justement quand même, est-ce qu'on ne peut pas voir où se situe ce déplacement et,
Oui, mais alors là, ce serait au niveau extérieur, c'est-à-dire au niveau de l'auteur en tant que comment il vit son écriture et puis surtout la publication de ses livres, si je comprends bien.
Je me demande dans quelle mesure ça n'influe pas sur aussi...
Sur le choix.
Le choix...
Oui, mais je pense qu'il y a peut-être, oui, une composante pragmatique, personnelle, quelque chose peut venir tout à fait compléter cette idée que malgré tout, Et fictionnellement, fictionnellement, ça correspond aussi à une réalité du monde post-exotisme, ce besoin de collectiviser. De toute façon, il y a eu d'autres hétéronymes avant, Elie Kronauer, Manuela Dreger. Oui, donc cette recherche-là, elle est en mouvement déjà depuis un certain temps.
On voit bien que chez Elie Kronauer, par exemple, un type d'écriture qui est la réécriture de Bilin.
On est d'accord.
Chez Manuela Dreger, il y a aussi quelque chose d'assez spécifique avec le personnage de
Bobby Potemkin. Mais il y avait quelque chose de spécifique, puisque avec la publication d'11 rêves de suie, on repasse dans un monde où il n'y a pas Bobby Potemkin et ce ne sont pas des histoires, des fausses enquêtes policières. Enfin, donc. Et c'était vous, mais je suis d'accord avec la composante une sorte de composante pragmatique qui vient compléter ça. Mais ça vient compléter, je crois que ça s'oppose pas.
Ouais. Alors deux autres questions, oui.
Dominique Soulas, je voudrais parler de quand même d'une petite différence entre Lutz Bassmann et Antoine Bologhine, une différence de réception. Permettrait de faire écho peut-être à la séance d'introduction, c'est-à-dire qu'au moment où la signature Lutz Bassmann apparaît au grand jour en public, à ce moment-là, un corps disparaît, ou plutôt aucun corps n'incarne cette signature de Lutz Bassmann. Et à ce moment-là, des lecteurs sympathisants s'emparent de ce vide, donc vous savez que la nature a horreur, pour mettre en place et mettre en circulation, notamment sur le net, des vidéos, des morceaux de musique qui s'emparent de morceaux de texte de Lutz Bassmann. Et Pierre, si je peux m'en parler quelques instants de l'idée de circulation que vous venez d'énoncer, qui me semble être très intéressante justement parce que ça fait circuler le texte et me semble-t-il que Volodine y soit pour quelque chose, ça incarne ce lecteur sympathisant. Et je trouve que c'est dans la réception des œuvres post-exotiques en général, incluant pour l'instant les quatre hétéronymes, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et de particulier, avec aussi, même si on ne va pas en retracer ici tous les épisodes, mais l'épisode Wikipédia qui n'est pas négligeable, puisque je n'ai pas les documents avec moi, mais je l'ai suivi d'assez près, et de semaine en semaine, ça a changé. Les textes, c'est-à-dire que les textes qui étaient proposés par des sympathisants du post-exotisme ont été systématiquement retirés parce que ça n'était pas, entre guillemets, une vraie vérité littéraire. Et ça, me semble-t-il, c'est quelque chose d'important, peut-être à creuser davantage, mais les feuilles de cigarette, Volodine Bassmann, et surtout le moment de la réception, où la réception ne se contente plus justement de recevoir, mais produit elle-même autre chose que des articles de presse ou des articles de critique, etc.
D'abord, Audrey Camus.
Juste pour correspondre, parce que c'est vraiment. Je me demande quand même dans quelle mesure tu ne situes pas du côté de lecteur des interventions de ce type-là, qui pourrait être aussi un travail souterrain des éditeurs. Je n'en sais rien, c'est juste.
Pour répondre à Frédéric, oui, il y a un travail éditorial, en partie éditorial, à propos du site de Lutz Bassmann, mais je pense que quelques productions dont les liens figurent sur le site échappent totalement à l'éditorial. Et pour citer de façon tout à fait anecdotique, micro-pratique personnelle, cru répondre à un texte de Lutz Bassmann à un moment en produisant moi-même un micro-texte et en réalité, ça n'était pas Lutz Bassmann du tout qui était à l'origine de ce à quoi je répondais.
Oui, Audrey Camus.
Tout d'abord, je trouve intéressante la remarque de Dominique concernant la place vide que laisserait le corps absent de Lutz Bassmann pour la réception éventuellement. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était par rapport à cette question de la ventriloquie, des marionnettes, de la feuille de cigarette. Moi, en t'entendant parler sur cette épaisseur du papier à cigarette, je pensais à l'interrogatoire qu'on évoquait, je pensais Philippe Poussin ce matin. Il me semble que dans la confusion qui est parfois entretenue entre les rôles de la victime et du bourreau dans la structure de l'interrogatoire, on retrouve ce problème de la ténuité de la feuille de cigarette. Et je me demande si, de ce point de vue-là, l'auteur Lutz Bassmann ne peut pas être considéré comme... une autre manière de poursuivre l'interrogatoire, non plus sur le mode de l'interrogatoire, mais sur une reconduite du dialogisme en d'autres termes et au niveau éditorial finalement. Non plus donc à l'intérieur de l'œuvre, mais dans le réel, dans le réel éditorial.
Ouais. Ouais, ouais.
On retrouve un peu aussi ces structures à la Mébius, les bandes de Mébius, dans la mesure où.
C'est la question à la réponse. Volodine fait les questions, Volodine fait les réponses. Alors, juste pour maintenant, Volodine faisait les questions et les réponses. Et il me semble que ça a à voir avec ce que Philippe Roussin disait ce matin, d'une littérature qui serait là pour précisément répondre à un vide ou à une absence. Le fait de faire les questions et les réponses, c'est se substituer à ce silence-là. C'est proposer autre chose que ce silence-là. Donc jusqu'à maintenant, on avait la structure de l'interrogatoire qui permettait finalement de pallier à ce vide-là. Est-ce que Lutz Bassmann n'est pas finalement une manière de reconduire cet interrogatoire dans d'autres termes ?
Ça me pose un problème parce que tout simplement, dans la structure de l'interrogatoire, quel que soit le phénomène, l'effet de la non-contradiction des contraires, on a un ennemi, on a un interrogateur et un interrogé. On a quelqu'un qui frappe, quelqu'un qui pose les questions. Alors ça s'inverse, il y a des situations d'inversion, mais ces situations d'inversion n'empêchent pas l'existence quand même d'une rupture radicale entre les deux. Alors qu'entre Lutz Bassmann et Antoine Volodine, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est ce qu'on disait. Enfin, voilà, il n'y en a pas un qui interroge l'autre et l'autre qui répondrait. D'autant plus que ça présupposerait, en plus, qu'il y ait une réponse à apporter à un moment donné. Or, je ne suis pas sûr que le post-exotisme apporte une réponse...
Ce que je voulais dire finalement, ce que je voulais désigner par là, c'est la question d'un dialogue.
D'un dialogue, oui, d'un dialogue.
Qui soit finalement, dialogisme entendu, non pas comme ce qui attend la réponse, mais ce qui... une question perpétuelle.
Ouais. Mais en tout cas, un dialogue effectivement avec le panel d'hétéronymes, oui, là il y a quelque chose qui est l'ordre du. C'est au lecteur de le faire, je crois aussi à un moment donné, c'est de prendre les différentes et de les faire dialoguer les uns avec les autres et d'y trouver peut-être les nuances que je n'y ai pas trouvées par une lecture trop superficielle. Parce que là aussi, je crois qu'il y a. Il y a un vrai travail. Malgré tout, l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, moi je suis fumeur. Je suis fumeur, hein, donc je sais que c'est pas rien. Quand il n'y en a pas, on ne peut pas la rouler. Hein. Donc,
Jean-Pierre Vidal d'abord. Ah, excusez-moi, Gaspard.
C'est parce que je suis un peu en
jeu. Oui.
En fait, c'était pour répondre à ce que. Pour continuer ce que disait Dominique, une question que je me pose, c'est pas une observation, c'est plutôt une question que je pose. Si en aval. On peut constater le questionnement que tu faisais sur le positionnement du lecteur par rapport aux hétéronymes. Est-ce qu'on ne peut pas aussi faire la même démarche en amont, en considérant que si on fait par exemple, si on regarde par exemple la page de garde du post-exotisme en 1811, on voit que tout d'un coup les auteurs il y a une épaisseur qui se crée tout d'un coup d'auteur. Et une complexification, une densification de strates d'auteurs, est-ce qu'en passant à Lutz Bassmann, est-ce qu'il n'y a pas une strate qui s'enlève ? Est-ce qu'on n'est pas plus proche ? Est-ce qu'il n'y a pas un niveau qui est évacué ? J'ai lu les livres de Bassmann, mais je n'arrive plus à me souvenir. Ce serait intéressant de voir s'il y a encore ces tics d'écriture du style « quand je dis je pense à », évidemment. Donc, est-ce qu'il y a un dédoublement qui disparaît ? Et est-ce qu'on n'est pas un peu plus proche du goudron ?
Non, mais c'est un petit peu ce que j'évoquais. Moi, j'ai le sentiment qu'on est plus proche du goudron. Maintenant, j'ai de l'espoir. On n'est pas encore en train de s'y enfoncer totalement, non, effectivement. Enfin, je sais pas. Au niveau de la vision des choses, j'ai l'impression que, enfin, dans Écrivain, qui va donc paraître aussi à la rentrée, je suis désolée de parler de livres qui n'existent pas, mais. Vous avez un texte qui s'appelle Commencer, et qui est, qui serait à l'origine, alors là, avec toutes les précautions possibles et imaginables, mais qui serait à l'origine du post-exotisme, une page d'écolier qui serait le premier pas de l'écriture, qui est reproduit non pas en totalité, mais avec des extraits. Avec ses fautes d'orthographe, etc. Et ça s'intitule « Commencer ».
C-O-M-A-N-C-E-R.
Ouais. Donc, Antoine Volodine a toujours précisé qu'il voulait arriver à la fin et « je me tais hein. ». Quand on lui demande quel est son but dans l'écriture, c'est en finir. Enfin, finir avec l'écriture. Donc, commencer, finir, il y a quelque chose il y a une construction qui est pensée du début à la fin. D'autre part, il y a un autre phénomène qui est très bien expliqué quand vous lisez la préface du Bardo Todol, dans l'édition recommandée par l'auteur. Vous avez l'explication qu'est-ce qui se passe de l'âme du défunt quand elle entre dans le Bardo. C'est expliqué comme une balle de ping-pong qui en fait, à un moment, elle s'élève à l'intérieur du bardeau, elle retombe, et puis elle poursuit sa course, et de plus en plus faiblement. Et donc, en fait, il y a non seulement une linéarité, enfin, à mon avis, il y a non seulement une linéarité, mais quelque chose qui est de l'ordre de... Il y a des rebonds. Ça remonte, ça repart, mais ça baisse de plus en plus jusqu'à la fin. Et là, ce que je propose, c'est simplement d'écarter un modèle un peu linéaire en disant, mais attention, là, maintenant, il va falloir penser en termes de plusieurs espaces, plusieurs archipels d'écriture. Lequel va servir de... Alors, ça va obliger complètement à repenser comment peut se produire ça? Est-ce que c'est compatible d'abord? Est-ce qu'on peut avoir ces différents espaces ensemble? Voilà. Mais je ne sais pas si ça répond. Oui.
Jean-Pierre Vidal.
Je voudrais aborder la question un peu sous un autre angle. Pierre évoquait tout à l'heure l'innommable. Vous avez parlé de commencer. Il y a évidemment une sorte de jeu de mots avec le commençait de Beckett. Hein. Je crois que dans l'écriture aussi de Volodine, il y a ce processus, je dirais, d'évitement de la signature et d'atténuation des repères biographiques. Et à cet égard, je me demande si les hétéronymes ne sont pas la constellation, l'explosion produite par cet évitement, le contraire. Et à cet égard, je voudrais rappeler à tout le monde une anecdote que j'ai racontée tout à l'heure à Volodine. C'est Claude Simon qui, à la fin de la vie de Merleau-Ponty, Merleau-Ponty donne un cours au Collège de France sur Claude Simon, en présence de Claude Simon. Et Merleau-Ponty développe une analyse absolument phénoménale du texte. Et à la suite de ça, les deux vont prendre un verre. Et Claude Simon, qui était un homme très modeste, lui dit, disons, le Claude Simon que vous avez décrit est drôlement intelligent. Et Merleau-Ponty dit, oui, mais c'est pas vous.
Alors, écoutez, il y avait deux, trois mains, oui.
Oui, je change de sujet. En fait, je voulais revenir sur le motif de la catastrophe dont tu as parlé au début. Et je m'interrogeais, en fait, sur les motivations du choix de ce terme, parce qu'il me semble un petit peu faible, parce que comme tu l'as dit, ça désigne une calamité de grande ampleur. Il me semble que les événements dont les romans d'Antoine Volodine sont plus que des calamités de grande ampleur. Je sais pas, la Shoah, enfin, j'aurais du mal à qualifier ça une calamité, même de grande ampleur. Et puis je trouve que c'est un terme un petit peu entaché, comme tu l'as d'ailleurs suggéré, de péjoration, puisqu'il y a cet ouvrage ou cette phrase dont tu as parlé, le mode des catastrophes du troisième millénaire, et puis tu as dit que ça parlait de 11 septembre, de Katrina, etc.
Non.
Je trouve ça un peu bizarre d'appeler mode un événement historique réel et puis des catastrophes naturelles pour le coup également réelles, en plus de les mettre sur le même plan. Enfin, je trouve qu'il y a une forme d'indécence là. Enfin, le terme de catastrophe me gêne un petit peu. pas de toi, hein, mais de, apparemment de cet ouvrage qui dit que c'est une mode, ces catastrophes qui sont advenues dans le réel. Et en fait, je m'interrogeais sur, ben, du coup, pourquoi tu as choisi ce terme plutôt que celui d'Apocalypse, d'autant que dans le livre dont tu nous as très bien parlé, tu as dit qu'il y avait cet épisode hein, qui dialoguait avec la Bible, avec l'Arche de Noé. Et il me semble que l'Apocalypse, finalement, correspond bien bon, à ce dialogue sous-jacent avec les grands textes, y compris religieux, bien que les romans s'inscrivent dans un horizon totalement laïque. Hein. Et notamment puisque l'Apocalypse était quand même un motif propre précisément aux idéologies révolutionnaires. L'Apocalypse, c'était la destruction, mais aussi l'avènement d'un monde neuf. Ça a ces deux sens-là déjà dans la Bible. Et ce qui me semble intéressant chez Volodine, c'est que pour le coup, l'Apocalypse ne débouche sur aucune révélation, mais on est enfermé dans une sorte d'apocalypse permanente. Donc en fait, je voulais savoir du coup pourquoi ce terme de catastrophe, qu'est-ce que tu lui attaches, enfin, pourquoi tu l'as choisi plutôt que celui d'Apocalypse, par exemple.
Bon, Apocalypse, déjà, je suis pas sûre d'avoir contrôlé mon écriture, moi, suffisamment pour ne avoir évité systématiquement le terme Apocalypse. Donc, je suis certain qu'on a tous utilisé post-atomique. Enfin, je crois que pendant un temps, j'étais arrivée à post-atomique ou quelque chose comme ça. Mais enfin, c'est quand même très entaché de christianisme, ce qui correspond pas forcément à l'œuvre en question, avec cet aspect surtout de résurrection des morts et tout s'arrange, tout va bien. J'exagère, mais enfin, il y a une sorte de réconciliation finale promise qui pose un problème dans l'univers de Volodine. Ensuite, le terme de catastrophe, en soi, ça me paraît... Alors, évidemment, si on traduit catastrophe par calamité de grande ampleur, hop, on atténue encore d'un coup, et on peut baisser encore, et ça va devenir quelque chose de faible. Non, je crois sincèrement que le mot de catastrophe même Shoah veut dire catastrophe, et c'est peut-être parce qu'on est tous à la recherche d'un mot qui peut exprimer. Alors, on a le choix, hein. Soit on parle de livres pris individuellement, Lisbonne dernière marge, la Shoah qui est très marquée dans le texte, ou plus exactement le rapport de la génération qui a suivi en Allemagne, ou bien et là on prend individuellement les différentes situations, génocide, ou bien voilà, moi j'ai choisi ici de parler de manière générale d'un la catastrophe qui a déjà eu lieu au début du livre et ce qui me permet de toucher un peu tous les voilà de toucher un peu à tout.
Ouais. J'ai encore voilà, trois questions et demie peut-être et il faudra peut-être essayer d'être bref parce qu'on manque un peu de temps. Allez-y, il y a trois questions encore.
Eh bien. Alors moi ça m'a fait penser à trois choses votre intervention, Gerrit Epstein. La première c'est la marionnette. On en a parlé tout à l'heure avec les guignols. Je me dis que l'hétéronyme, ça permet aussi d'autres types de langage, d'autres types d'univers qui s'ouvrent et d'autres types d'exploration. Ça, c'est la première chose. Et peut-être avec une liberté que le nom unique ne permet pas. La deuxième chose, je repensais en peinture à la série, c'est-à-dire répétition et variation. Alors, il y a peut-être aussi ça dans l'hétéronymie, c'est-à-dire la répétition et la variation. Je pensais au cathédrale de Rouen de Monet, des choses comme ça. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, mais c'est tout à fait à la fin que ça m'est venu, c'est pour en finir avec l'écriture. Et vous avez parlé du rebond de la balle de ping-pong qui s'évite vers le vide, hein, vers l'immobilité, vers la mort, en fait. Et la mort du mouvement. Et je me disais, est-ce que l'hétéronymie, c'est pas un contre la mort et un contre la montre, les deux à la fois. Voilà, c'était les trois choses qui me sont venues à l'esprit.
Oui, enfin, on est relativement pressé, mais c'est variation, oui, je suis assez d'accord avec ça. Parce que c'est un terme qui revient dans, enfin, dès qu'on lit tout, on a l'impression à chaque fois, de toute façon, que soit signé Antoine Volodine, c'est une variation. On reprend les différents éléments, voilà, moi je parlais du jeu de perles de verre d'Hermann Hesse, enfin, quelque chose de cet ordre-là. On a un certain nombre d'éléments, et puis ce qui ne veut pas dire qu'on n'apporte pas des éléments nouveaux à un moment donné, justement. Là aussi, chaque étudiant à l'école apporte quelque chose de nouveau. Donc, on peut avoir des éléments nouveaux, mais au départ, quand même, il y a un grand sac dans lequel on a un certain nombre de choses, un grand sac, je ne sais pas comment l'appeler, hein, Et on les assemble. Et c'est des variations. Au fond, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. J'ai peut-être un élément qui marque un côté.
Il y a le papier et la cigarette.
Ouais. Dans variation hétéronymique, ça permet peut-être plus de liberté, plus de. Ouais, effectivement.
Je vois le glaise.
Oui, c'était un complément très rapide à ce qu'on disait tout à l'heure sur les hétéronymes et sur. Et notamment, je voudrais rappeler la page de faux titres du post-exotisme en Dilson, où il y a 7 noms d'auteurs, il me semble, me souvenir. Non, 6
8
8 je sais pas, alors il est là, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, il y a une sorte de variété. Il ne faut pas les réduire à 2 voix, voire même.
Ah, mais rien n'est terminé.
3 ou à 4. Pour le moment, il y en a 4. Mais après tout, pourquoi n'y en aurait-il pas d'autres? Et on peut très bien considérer aussi que la sortie dans le réel extérieur éditorial de Lutz Bassmann n'est qu'un stade, n'est qu'un épisode, qui est une sorte de, voire même une revanche sur Gallimard, puisque Volodine n'avait pas pu mettre tous les noms
sur la page de garde,
sur la page de couverture. Il s'est réfugié dans la page de footnote, mais finalement, il a donc changé d'éditeur pour effectuer dans le réel la transmission, le partage de la voix avec Lutz Bassmann, mais pourquoi pas avec d'autres. Je ne fais pas de prédiction.
Non, mais on peut. Je crois qu'on peut.
C'est une possibilité.
C'est vraiment une possibilité. Ouais. Ça fait aucun doute. Mais de toute façon, il y a eu depuis le départ un combat de cet ordre-là avec les éditeurs. Hein. C'est-à-dire, il y a longtemps des entretiens. Évidemment, je me souviens pas de la date, mais où il disait j'aimerais bien faire exister d'autres. Mais c'est bien plus ancien que les premiers hétéronymes. J'aimerais faire exister d'autres voix, et c'était apparemment impossible.
Je suis par la leçon 10 du post-exotisme en leçon 11 pour voir qu'il y a encore un tas de 343 titres. Il y a quelques années.
Guillaume, tu voulais faire une intervention?
Oui, en fait, c'était pour très rapidement pour rebondir sur la question de la catastrophe. Moi, au contraire, ça m'a paru tout à fait opératoire. Mais à ce moment-là, je pense qu'il faudrait recourir à Peter Sloterdijk, justement, qui en fait une catégorie ontologique dans l'Organisation infinie, pour montrer que, justement, au moment où les philosophies de l'histoire, les court-circuitages, les théologies, finalement, donc les philosophies d'histoire s'épuisent, la catégorie catastrophe est pensée donc par Sloterdijk comme étant la seule possibilité de susciter une réaction donc dans une communauté à partir du moment où une espèce d'engourdissement qu'a suscité justement cette espèce d'échec de l'histoire, et à ce moment-là, c'est pas du tout de l'ordre d'un effet de mode, mais au contraire, ça devient une catégorie philosophique qui me semble tout à fait collée avec l'univers post-exotique.
D'ailleurs, on tombe trop avec le texte sacrifié, où il pense la catastrophe en tant que sortie de cette histoire.
Ouais. Mais il y a le plus politique, il y a Naomi Klein qui a sorti un livre sur la stratégie du comment ça s'appelle du choc, c'est ça, où elle explique que le néolibéralisme progresse à chaque fois, il utilise les catastrophes pour pouvoir avancer encore un petit peu plus ses pions et pour pouvoir imposer en fait ses logiques politiques. Il y a autour de la catastrophe un enjeu majeur, c'est-à-dire qui va sortir aussi de la catastrophe. Et est-ce qu'il va sortir quelque chose? Oui, qui Katrina, la Nouvelle-Orléans, c'est la mode, hein, c'est de l'actualité, mais il faudrait se poser des questions sur à quoi ça a servi finalement, pourquoi on a laissé aussi pendant des années. Les catastrophes ne sont pas toutes naturelles non plus, hein, donc même quand elles ont l'air naturelles, et à quoi ça a servi donc,
Bon, ben merci Thierry, et merci à vous.
Merci à vous.
On va faire une petite pause de 15 minutes et donc on reprend à 4 heures.